Même pour être avec vous et vous retrouver, du moins quelques-uns d'entre vous, car les assemblées se renouvellent, et participer à ces manifestations qui se sont étendues sur une bonne partie de l'année en rapport avec votre anniversaire des 50 ans, je crois. Heureux de saluer aussi mes collègues que je revois, que Dieu vous bénisse. C'est une joie d'être sollicité et en même temps une responsabilité. Sur le thème de la vie de l'esprit. J'espère ne pas vous décevoir et j'espère pourtant aussi peut-être contrecarrer quelques idées reçues en rapport avec la vie de l'esprit et ses manifestations telles que nous les concevons d'une manière un peu générale. Aussi, je vous propose, car vous savez, on ne peut pas tout traiter en une fois, je vous propose de faire l'effort d'être là lundi, mardi et mercredi. Nous allons essayer de construire un ensemble de réflexions à partir de notre expérience de pentecôtiste et à partir, évidemment, des textes de la parole de Dieu. La première référence que je voudrais que vous ayez à l'esprit, c'est celle bien connue du prophète Joël, où le prophète de la Pentecôte, Joël annonce que le Seigneur va envoyer son esprit. Et il dit que, eh bien, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, vos vieillards auront des songes, vos fils et vos filles prophétiseront, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Or, la prophétie de Joël, il faut le reconnaître, ce qui s'est accompli le jour de la Pentecôte, a entraîné un phénomène qui s'est dégradé au fur et à mesure que le temps s'est écoulé. Je vais voir si les frères qui ont pris les choses en main d'une manière admirable, parce que je n'étais pas préparé à cela, peuvent passer un document qui va nous montrer comment très rapidement la vie de l'esprit s'est perdue, elle s'est dégradée à partir de l'expérience initiale, c'est-à-dire celle de l'Église primitive, où malgré ses défauts, malgré les progrès qu'il y avait à faire, l'Église primitive n'était pas parfaite, eh bien, il y avait néanmoins une plénitude de l'Esprit. D'abord, à cause de l'expérience du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, renouvelé au chapitre 10, et puis les expériences que Paul a initiées dans la fondation de ces églises à partir de sa propre expérience personnelle. Il écrit aux Corinthiens, par exemple, qu'ils sont dans l'attente de la manifestation du jour de Jésus, et il ne leur manque aucun don. Il ne leur manque aucun don. Bien sûr, il y avait des choses à corriger, surtout à Corinthe, on le sait. Et ça nous a permis d'avoir trois chapitres fondamentaux dans la compréhension de la vie de l'Esprit, chapitres 12, 13 et 14, qui s'articulent autour des manifestations de l'Esprit. Mais néanmoins, malgré tous les progrès, malgré toutes les défaillances liées à leur méconnaissance, il y avait une plénitude de l'Esprit. Il ne leur manquait aucun don. Et si vous voulez vous interroger sur la croissance fulgurante des églises du premier siècle, elles n'avaient pas d'imprimerie, elles n'avaient pas de programme, elles n'avaient pas de finances. Paul dit que c'était des pauvres qui constituaient ces églises. Et cependant, le bassin méditerranéen a été bouleversé. Une des explications de l'accusation mensongère de Néron au sujet de l'incendie de Rome qu'il a imputé aux chrétiens tenait au fait qu'un tiers des habitants de cette ville étaient convertis. C'était politiquement ingérable. Et c'est ainsi qu'il a pensé devoir se débarrasser du peuple de Dieu en allumant un pare-feu, comme on disait autrefois dans les campagnes. L'Église primitive a réussi son mandat. Bien que dans de nombreux domaines, elle ait eu, comme toutes les assemblées, à se perfectionner, la plénitude de l'Esprit était une réalité. Dans le livre du prophète Joël, le prophète de l'Esprit, celui qui annonce cette plénitude, il est question d'une calamité. Le jugement de Dieu est sur la nation d'Israël à cause de ses péchés, et je pense que vous avez à l'esprit ces textes. Et puis peut-être même vos pasteurs en ont parlé récemment. Joël voit d'une manière prophétique une invasion qui va se produire avec les ennemis héréditaires d'Israël, les Assyriens, les Babyloniens. Mais il voit cette calamité militaire, il la voit au travers d'une invasion, d'un fléau naturel, une invasion de sauterelles. Vous avez certainement entendu parler de ces grandes menaces que représentent ces essaims de sauterelles. Il faut s'imaginer des centaines de milliards de bestioles ailées qui viennent, qui couvrent le soleil. La terre est obscurcie en plein jour et qui dévorent tout, ne laissant rien, mais absolument rien, sur leur passage. Et si on peut imaginer aujourd'hui que dans nos îles de Guadeloupe, etc., plusieurs années de récolte de bananes sont complètement détruites par l'ouragan, eh bien c'était exactement ce que l'on pouvait ressentir après le passage des sauterelles. C'était un fléau. Et le prophète Osée secoue le peuple d'Israël. D'ailleurs, le livre du prophète Osée, c'est un livre qui s'adresse aux vieillards. Il secoue les vieillards. Mais c'est un message qui parle aux jeunes. Et c'est pour cela que, il leur dit, vieillard, vous êtes des ivrognes. Il n'y allait pas de main morte. Ivrogne, réveillez-vous, sortez de cette espèce d'abrutissement dans lequel le vin vous a placé et réalisez que tout ce qui survient, c'est lié à votre défaut d'obéissance. Et il parle du Gazam, de Arbé, Jelek, Azil, qui sont soit quatre stades de la chenille, soit quatre formes de chenille, des sauterelles, des grillons, des criquets, peu importe. Mais ce Gazam, ce Arbé, ce Jelek et ce Azil, dans l'histoire de l'Église, m'ont semblé correspondre à des périodes où c'est perdu quelque chose de cette plénitude. Jusqu'à ce que le prophète, avec le réveil de ces vieillards qui sortent de leur vin, qui comprennent que ce jugement de Dieu était nécessaire, soient en mesure de recevoir la plénitude de l'Esprit et qu'ils aient des songes, des visions et qu'ils deviennent des instruments de Dieu. Gazam, la chenille, eh bien, elle est citée en premier et je la mets donc tout de suite après l'expérience de l'Église primitive, c'est la diminution des dons de l'Esprit. Et il est remarquable, lorsque l'on fait l'histoire de l'Église, de se rendre compte que très très rapidement, il y a eu une méconnaissance de la vie de l'Esprit. Voilà ce que l'on disait quelque temps après les apôtres, le don de l'Esprit n'est pas caché, c'est Saint-Hilaire de Poitiers qui dit cela, on le perçoit encore lorsqu'on entend parler en diverses langues. Cette parole en langue est un signe que l'Esprit Saint nous a été donné. Il est aussi mis en évidence par l'interprétation des langues. Ça, c'est tout de suite après les apôtres. Voilà. Donc, il y avait encore ces manifestations de l'Esprit. Un peu comme ce matin, il y a eu des prophéties, des langues, des interprétations. J'ai personnellement construit ce message à partir des dons que j'ai entendus et j'espère avoir le temps d'arriver justement à cet aspect de sainteté qui a été souligné par l'Esprit ce matin, car l'Esprit, eh bien, ce n'est pas simplement là pour nous solliciter sur le plan émotif, quelquefois, comme certains le croient, sur le plan physique, mais l'Esprit nous sollicite pour une vie de qualité supérieure et une marche dans la sainteté. Donc, vous voyez, tout de suite après les apôtres, il y avait encore la manifestation de l'Esprit. L'impact de la plénitude était réel. Mais très vite, regardez ce que dit, par exemple, Augustin. Il dit, le parler en langue qui était autrefois à la portée de tout le monde, et là nous sommes au IVe siècle, était réservé seulement à l'âge d'or des premières communautés chrétiennes. Ces phénomènes sensibles ne sont apparus que pour signifier quelque chose et ils ont ensuite disparu. Voilà ce que disait Chrysostomé. Chrysostomé, la bouche d'or, c'est ce que signifie son nom. Il est mort en 405. Il écrit une homélie sur l'épître aux Corinthiens et il met ce passage, il s'agit des chapitres concernant les dons spirituels, 12, 13 et 14. Ces passages sont tout à fait obscurs. Cette obscurité provient de notre ignorance de ce qui se passait alors et qui ne se produit plus maintenant. Gazam, la chenille. Et il y a eu une dévastation. Et il y a eu la perte des dons de l'Esprit. Ensuite, il y a eu Arbé, la sauterelle. La sauterelle, c'est la perte de la puissance de l'Esprit. Avec les manifestations vocales, ont été également perdues, dissipées. les manifestations de puissance. On a cessé de croire dans l'imposition des mains comme l'acte souverain par lequel l'Esprit de Dieu sollicite la foi et nous met en contact avec la puissance de guérison de Jésus. Et on en est arrivé à ces aberrations de l'extrême onction, etc., tous ces gestes qui ont de loin l'apparence de la vérité, mais qui en ont renié la puissance et l'efficacité. On a perdu la puissance de l'Esprit. Les dons de guérison et les miracles se sont faits complètement dévorés par la sauterelle. Et puis, il y a eu le gélec, le grillon. Et là, je dirais, c'est la perte de la sainteté. La perte de la sainteté est arrivée avec Constantin lorsque le politique s'est mêlé de faire de la religion et qu'il a établi le christianisme comme une religion d'État. Alors on a transformé les dieux païens du Capitole et on les a remplacés par les saints qui ont pris leur place. Et c'est ainsi qu'on a engrangé dans l'Église des masses de gens qui n'étaient pas régénérés, qui n'avaient pas fait l'expérience du salut. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons des millions de gens qui portent le titre de chrétiens, mais qui ne sont pas chrétiens. À Lyon, dans une rue du 8e arrondissement, il y avait au 19e siècle un bourreau très célèbre. C'était un homme efficace, vous comprenez ce que je veux dire, dans son art. C'était le bourreau le plus célèbre de Lyon. Bien, tenez-vous bien, il portait le beau nom de Monsieur Chrétien. Monsieur Chrétien. Il faut dire que ça ne va pas trop avec quelqu'un qui coupe le cou. Eh bien, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, eh bien, ils ont ce nom de chrétien, mais ça ne va pas. Ça ne sonne pas comme il faut avec leur vie. Pourquoi ? Parce que le gélec, eh bien, a fait son œuvre. Et puis, il y a le hasil. Le hasil, c'est l'abandon de la justification par la foi. Très vite, la doctrine qui est je dirais, la pierre de touche de l'Écriture, ce talon dont le livre de la Genèse parle au chapitre 3, « Tu lui blesseras le talon, mais elle t'écrasera la tête », cette postérité, ce talon, eh bien, c'est pas une puissance humaine, c'est la doctrine de la justification par la foi. Lorsque, eh bien, nous avons saisi par la foi le sacrifice de Jésus, cette œuvre grandiose dans notre vie, qu'il nous impute, il se charge de nos péchés, étant lui-même devenu péché pour nous, afin que par sa mort et sa résurrection, nous devenions, nous, justice de Dieu. Quand cela s'est perdu, alors il a fallu mettre sur pied des rites et inventer toutes sortes de relations avec les prêtres, les intermédiaires, bref, c'est un schéma déplorable. Ensuite, il y a eu, vous voyez, les âges ténébreux. Pendant 10 siècles, en théologie, on appelle cette période du Moyen-Âge le millénium de Satan. Pendant 10 siècles, car voyez, cette horloge est en quelque sorte un petit peu comme le moyen d'égrener le temps, ces siècles qui nous séparent de l'Église primitive. Pendant 10 siècles, c'est l'apostasie de l'Église, avec cette institution papale, compromis sur le plan moral, sur le plan financier. On voit bien que Joël ne s'était pas trompé. Oh, il parlait d'Israël, il voyait ce ravage des sauterelles, et il voyait cette invasion militaire. Mais comme il parle de l'Esprit, moi je vois aussi le travail du diable qui a sapé depuis longtemps, dès le 4e siècle, après l'effusion de l'Esprit, les œuvres de l'Esprit au sein de l'Église. Et il a fallu, ce n'est pas un hasard si cette année, étant dans la période du saint centenaire de Luther, la promulgation de ses thèses, si je vous parle de cela, c'est au 16e siècle que Luther a placardé ses 95 thèses, et ça n'était pas simplement un coup de marteau. Les faits étaient bien plus grands que ce qu'on était en droit de s'attendre d'un coup de marteau banal. C'était la parole de Dieu qui reprenait ses droits. C'était une action puissante qui permettait maintenant aux ténèbres de laisser passer la lumière. Et il a remis en évidence la justification par la foi. Lorsque on dit sola scriptura, sola fide, on dit la foi seule, l'écriture seule. En fait, c'est un datif, ça veut dire par le moyen de la foi, par le moyen de la parole, par le moyen de... Voilà ce qu'il avait redécouvert. On est justifié par la foi. Alléluia. On est sauvé par Jésus-Christ. On est délivré des erreurs par le moyen de la parole de Dieu. C'est ainsi que, eh bien, on va arriver au mouvement, vous le voyez en haut, au mouvement de Pentecôte moderne. John Wesley va rétablir la sainteté. Et puis, au début du 19e siècle, au début du 20e siècle, c'est le réveil avec Evan Roberts, réveil gallois, qui a préparé, dans une large mesure, le réveil de Pentecôte moderne, que j'ai illustré par la photo, pour ceux qui peuvent le voir et qui l'ont connu, avec le visage de monsieur Donald G., un remarquable homme de Dieu qui prêtait la main régulièrement aux serviteurs de Dieu lorsque, eh bien, il était encore de ce monde. Le mouvement de Pentecôte a connu à partir de ce moment-là une large diffusion mondiale. Et c'est ainsi que le plan du diable, qui a été de ravager, de détruire, d'exterminer l'Église, de diminuer son impact, eh bien, a échoué. Il a échoué parce qu'il y a eu un relèvement. À partir du XVIe siècle, la doctrine de la justification de la foi, la sainteté de vie, avec, bien sûr, je passe sur toutes les différentes églises qui sont nées de ces mouvements, nos frères baptistes qui ont remis à l'honneur l'assemblée locale, les frères libres qui se sont séparés de l'État et qui ont voulu être véritablement autonomes, et puis les assemblées de Pentecôte que nous pouvons représenter. Le mouvement de Pentecôte, c'est un mouvement que Dieu a largement utilisé dans le monde et qui peut encore être une des réponses face au modernisme, face à l'immoralité, dans la mesure où nous comprenons pourquoi nous avons été suscités. Ce n'est pas non plus un hasard si, cette année, le journal Pentecôte de notre revue a consacré un numéro, le numéro d'avril 2017, à notre frère Douglas Scott. Et ce n'est pas non plus un hasard si, à Singapour, s'est tenu le 27e congrès au mois de mars, des Assemblées de Dieu. Là, on a recensé qu'environ 68 millions de membres composaient la famille des Assemblées de Dieu, rassemblant plus de 365 000 églises dans 255 pays, provinces du monde. Il y a tout un réseau mondial d'hommes et de femmes qui aujourd'hui peuvent prétendre avoir fait une expérience avec la personne du Saint-Esprit. Et quand on pense au premier congrès, le premier congrès qui a eu lieu en 1914 à Hot Springs, dans l'Arkansas, et qui ne rassemblait que 300 délégués. 300 délégués. À ce moment-là, le pentecôtisme était en but aux railleries, aux moqueries, aux mépris. Mais aujourd'hui, eh bien, peut-être à cause du fait qu'il a gagné un peu en respectabilité et en longévité, peut-être qu'il est aujourd'hui plus en danger que jamais. Au travers de ces 4 jours, je voudrais vous aider à renouveler l'engagement, à remplir la mission que le Seigneur nous a donnée, car le Seigneur ne nous a pas chargés simplement de recevoir le Saint-Esprit pour parler en langue, mais il a dit « Vous recevrez de la puissance et vous serez mes témoins ». J'aimerais vous aider à renouveler votre engagement, à remplir la mission d'évangéliser le monde avant le retour de Jésus. Car c'est ça, ce que Dieu s'est proposé en diffusant son esprit dans l'Église. Et c'est pour cela que le diable s'est occupé depuis pratiquement le début, avec ses sauterelles, de détruire cet héritage béni. Parce que si le Seigneur veut que personne ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité, Satan, lui, il est venu pour dérober, pour détruire, et il veut la perte du genre humain. Prendre également, et ce sera peut-être une occasion pour vous de réfléchir avec votre pasteur, avec vos équipes de responsables, prendre en considération les modifications majeures dont nos sociétés sont l'objet, Car les choses vont beaucoup plus vite que tout ce que l'on peut imaginer, de nouveaux comportements qui impliquent de nouveaux défis, qui impliquent que l'Église ne doit pas rester fossilisée, sclérosée dans des traditions, dans des habitudes. Et là, je parle de nous. Mais de prendre conscience que face aux besoins des autres, face au dénuement des autres, que nous ressentions tous comme une nécessité urgente, de revenir à une profonde action de l'esprit. Comme disait le prophète, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Et si, eh bien, nous voulons qu'un jour il y ait des témoignages, des victoires remportées par le peuple de Dieu, le peuple de Pentecôte, ce ne sera pas par sa force, parce qu'il aura acquis au fil du temps des églises, des ressources, parce que ces candidats au ministère auront des diplômes, mais c'est parce que l'Esprit de Dieu, cet Esprit qui a été annoncé par Joël, cet Esprit qui a été l'expérience de l'Église primitive, sera encore à l'œuvre au milieu de nous. Alors, vous allez dire, mes frères, ça fait longtemps que je suis baptisé dans le Saint-Esprit, est-ce que vous croyez que j'ai besoin d'entendre ces choses? Mais, moi je pense, ça fait aussi longtemps que je suis converti, et ce matin, par exemple, j'ai entendu des dons spirituels, j'ai pu comprendre comment Dieu voulait me diriger. Je ne me suis pas dit, je suis au courant de tout, car celui qui pense être au courant de tout va s'apercevoir un jour, peut-être trop tard, que ce qu'il ignore est infiniment plus grand que ce qu'il croit savoir. Je voudrais insister vraiment auprès de vous, auprès de cette église d'Annecy, que j'ai connu, il y a peu de gens qui sont là de mon époque. Est-ce que je peux me permettre de demander à ceux qui étaient là en 1991, quand j'ai quitté Annecy, de lever leurs mains, s'il vous plaît. Donc, ouais, j'en vois quelques-uns. Ouais, je vois. Ah, c'est les villes, ça. Je ne vous ai pas reconnu parce que vous avez un peu maquillé. Hein. Vous êtes au fond. Oui, bonjour. Je vois. Ah oui, d'accord. Dieu vous bénisse. Mais que Dieu vous bénisse aussi, vous tous, frères et sœurs, que je ne connais pas. Je suis heureux de voir que vous vous êtes ajoutés par les ministères qui ont succédé à cette église. Mais je crois que dans ce bassin annécien, et compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde évangélique, multiplication d'églises, création de nouveaux comportements, je crois qu'il est important que nous, Assemblée de Dieu, nous insistions sur l'importance primordiale du baptême dans le Saint-Esprit, dans notre vie personnelle, dans la vie de l'Église, avec tout ce que cela implique. D'abord parce que nous voyons des réductions de baptême dans le Saint-Esprit. D'abord parce que les manifestations spirituelles authentiques sont aussi en minorité. Il y a aussi dans le monde, que Dieu soit béni, car nous avons jusqu'à ce jour été gardés, des détournements de doctrine. Beaucoup de gens viennent au nom de l'Esprit avec des désordres, de la confusion. Il nous faudra rééquilibrer les choses à la lumière de la parole de Dieu. Et en même temps, ne pas étouffer le feu, rallumer la passion pour une authentique vie de l'Esprit. La primauté de l'Esprit de la Pentecôte est largement démontrée dans le ministère de Jésus. C'est vrai que notre message, c'est Jésus et Jésus-Christ crucifié. Mais c'est également vrai que le Saint-Esprit est abondamment présent, ne serait-ce que dans la vie du Seigneur. Il a été conçu par le Saint-Esprit. Jésus a été roi du Saint-Esprit. Il chassait les démons par l'Esprit. Il parlait par l'Esprit. Il a donné ses ordres par le Saint-Esprit. Et la Bible dit que quand il s'est offert à Dieu dans l'agonie de Gethsémané et au calvaire, c'est par l'Esprit qu'il s'est donné. Vous voyez, même la compréhension de la croix de Christ, non pas sur le plan émotionnel ou artistique, mais sur le plan spirituel, théologique, eh bien, ça ne nous est donné que par le Saint-Esprit. Personne n'a été témoin des souffrances de Jésus. Les trois meilleurs apôtres dormaient, et les autres, on ne sait pas où ils étaient, mais le Saint-Esprit était là. C'est par l'Esprit que Jésus s'est présenté à Dieu comme une offrande éternelle. Et quand on regarde la vie des premiers prédicateurs, la vie de Pierre, sa prédication, eh bien, est une démonstration de l'importance qu'il tenait à parler de l'Esprit. Son premier discours, le jour de la Pentecôte, ça ne pouvait pas mieux être. Il explique et justifie l'expérience de Pentecôte à partir du texte de Joël. Mais ces gens ne sont pas ivres comme vous le pensez. Mais c'est ici ce qu'a dit le prophète Joël. L'esprit est maintenant répandu. Regardez son deuxième discours dans Actes 3, verset 19. Il parle de temps de rafraîchissement. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous vivions un rafraîchissement permanent. Le mot signifie un repos intérieur, un repos, comme quand on est rafraîchi à l'ombre, renouvelé. Il y a des gens, ils sont toujours épuisés. Peut-être font-ils des excès dans la vie spirituelle. Parce que le baptême dans le Saint-Esprit nous est donné, alors Dieu nous rafraîchit. Il nous renouvelle, c'est le repos. À Césarée, acte 10, il y a une manifestation de l'esprit telle que la prédication est interrompue. Et à Samarie, eh bien, il va également prêcher l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Philippe avait fait un très bon travail. Il avait amené les gens jusqu'à la repentance, jusqu'au baptême d'eau. Mais l'esprit n'était descendu sur aucun d'eux. Et il y a une différence entre l'action de l'esprit qui nous convainc de péché, l'action de l'esprit qui nous régénère, et puis ce revêtement de l'esprit qui nous qualifie pour le service et qui nous responsabilise à l'égard de ceux qui sont perdus. Ils n'étaient descendus sur aucun d'eux. Alors ils leur imposèrent les mains et ils reçurent l'esprit. Qu'est-ce que Simon a vu de si spectaculaire? Qu'est-ce qu'il a entendu de si anormal pour qu'il puisse désirer, au travers d'une prière de fou, insensée, obtenir lui aussi cet esprit, moyennant de l'argent? Il a vu ce que nous avons l'habitude de voir, des gens être secoués par la puissance du Seigneur. Quand on est en contact avec Dieu, il y a une communication, un transfert, je dirais, d'énergie. La personne même de l'esprit vient habiter notre cœur. Et alors, il a entendu des larmes. Peut-être a-t-il vu des gens pleurer. Peut-être quelques-uns ont été effondrés. Et quand il a vu cela, il a dit, mais là, c'est le doigt de Dieu. C'est quelque chose que je ne peux pas reproduire avec ma magie, avec mes arts. Il a voulu aussi cela. Il y a aussi une différence entre le parler en langue tel que nous le pratiquons d'une manière générale et les dons des langues. Ce sont les mêmes langues. L'expression parler en langue dans le livre des Actes assume un sens qu'elle n'a pas dans l'épître aux Corinthiens. Les trois chapitres de Paul aux Corinthiens qui traitent des dons spirituels parlent de et citent l'expression parler en langue. Pourtant, eh bien, cette expression n'assume pas le même sens que dans le livre des Actes des Apôtres. Dans le livre des Actes des Apôtres, il s'agit de ce que nous avons appelé le signe initial. Et là-bas, dans l'Épître aux Corinthiens, c'est le don des langues pour l'Assemblée. Les circonstances d'énonciation de ces langues sont complètement différentes. Il y a l'Assemblée publique où des prophètes peuvent siéger. Des ministères sont là pour juger, pour maintenir l'équilibre. Et puis, il y a le moment qui peut être un moment personnel de réception du baptême dans le Saint-Esprit. Beaucoup de gens ont reçu le Saint-Esprit tout seul. D'autres l'ont reçu dans l'Assemblée. Mais comme c'est une affaire de relation et de cœur avec Dieu, il n'y a pas de règle précise à ce sujet. Cependant, il y a, voyez-vous, une extension du phénomène. C'est pour ça que des gens se trompent lourdement quand ils nous disent « mais il est écrit dans les Corinthiens et dans d'autres textes, tous parlent-ils en langue, voulant ainsi dire que le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas une nécessité et qu'en tout cas le signe des langues n'est pas réellement le signe du baptême dans le Saint-Esprit. » Ils confondent, ils oublient cette extension du phénomène. Il y a les langues qui sont un signe et il y a les langues qui sont un don. Et c'est pour cela que tous ne parlent pas en langue dans l'Assemblée publiquement. Et celui qui parle en langue est responsable d'interpréter, de chercher l'interprétation, afin que tous reçoivent l'édification. Et à ce sujet, il nous est dit que deux ou trois au plus parlent en langue et que quelqu'un interprète. Mais quand on regarde les langues dans la perspective du signe, on voit que chaque fois que l'Esprit est répandu, ils parlaient tous en langue, alléluia. Ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Acte 19, ils parlaient en langue et prophétisaient. Et chaque fois que le Saint-Esprit est répandu, eh bien, il y a eu un miracle d'ordre vocal qui a fait que, eh bien, le Saint-Esprit a pris les commandes et alors il s'est manifesté. Et nous n'acceptons pas ces points de vue qui consistent à dire que, eh bien, il agit d'une manière invisible et cachée. il y a une manifestation du surnaturel dans le baptême, dans le Saint-Esprit. Mais il y a cette différence. Je l'ai souligné au passage. Le mouvement de Pentecôte a été un mouvement relativement homogène dans son origine. Cependant, avec le temps, vous savez, de nouvelles frontières théologiques ont fait qu'à l'intérieur de ce que l'on appelle aujourd'hui le grand mouvement de Pentecôte, il y ait différents groupes. Alors, on n'est pas là pour faire de l'histoire, mais peut-être que c'est bien dans le cadre de cette série de réflexions d'englober. Il y a les pentecôtistes, les néo-pentecôtistes, les charismatiques et les non-charismatiques. Et vous allez voir que toutes ces catégories de chrétiens sont compatibles avec le label évangélique. Et qu'il faut savoir où est-ce que l'on se situe. Les pentecôtistes, eh bien, ce sont des gens qui reçoivent, aujourd'hui encore, le livre des Actes des Apôtres comme un modèle normatif. Voilà. C'est-à-dire, pour ce qui est de l'expérience de l'esprit, ils se réfèrent à l'expérience biblique, typiquement apostolique, et la doctrine de ce mouvement est d'encourager non seulement les prédicateurs, comme on l'a cru quelquefois, à être rempli du Saint-Esprit, mais également tous les croyants à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit est compris comme un revêtement de puissance, je le répète, en vue du service. Il est distinct de la régénération. Il est signalé par la manifestation vocale et audible du parler en langue. Et il est accompagné par les dons de l'Esprit selon les trois chapitres de 1 Corinthiens. Ça, c'est les pentecôtistes. Il y a les néo-pentecôtistes. Ce sont généralement des chrétiens, comme nous, qui admettent tout ce qui précède, tout ce que je viens de dire, excepté l'affirmation que le parler en langue est le signe biblique visible, initial, du baptême de l'Esprit. Et ils disent, oui, bon, on peut parler en langue, et puis non, il va recevoir le don de l'amour. Mais l'amour, ce n'est pas un don, c'est un fruit. Et on va en parler. Un autre dit, il a reçu la joie. Mais la joie, ce n'est pas un don, c'est un fruit. Le don de l'Esprit se signale par le baptême de l'Esprit. Ça, c'est les néo-pentecôtistes. Néo, ça veut dire nouveau. Et puis, les gens comme Pasteur Ray et moi, c'est les paléo-pentecôtistes, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à l'ère des dinosaures, et pas encore tout à fait fossilisés, mais bon, voilà, nous, on est des anciens. Marqué à Squatiri, mais il fait partie du même clan. Hein. Après, vous avez les charismatiques. Les charismatiques, ce sont des chrétiens qui acceptent que tous les dons qui sont recensés dans 1 Corinthiens 12, 8, 10, incluant la prophétie, les langues et la guérison, sont valables pour l'Église aujourd'hui. Donc les charismatiques croient cela. Mais ils rejettent l'idée que le baptême de l'Esprit-Saint soit un revêtement de puissance distinct de la régénération. Ils disent c'est la même chose. Au moment où on vient à Christ, on reçoit le Saint-Esprit. D'une certaine manière, oui, Jésus a dit à ses apôtres, l'Esprit de Dieu, il est avec vous. Hein, l'Esprit est avec vous, mais il sera en vous. Il y a quelque chose qui va de supplémentaire. Nous avons été convaincus par l'Esprit, nous avons été régénérés par l'Esprit, mais ensuite nous avons été immergés dans l'Esprit, nous avons été baptisés dans l'Esprit. L'Esprit qui était avec nous est en nous. Les charismatiques font une confusion au niveau de la régénération et du baptême de l'Esprit. Et puis vous avez les non-charismatiques. Non-charismatiques, ce sont des chrétiens qui rejettent la doctrine qui distingue le baptême de l'Esprit en tant que puissance pour servir de la régénération. Mais ils ne reconnaissent pas la validité des dons. Ils ne reconnaissent pas la validité de la nécessité d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Alors ils expliquent que c'était pour les premiers chrétiens. Dans ce lot, il y a des gens qui sont respectables, qui aiment le Seigneur, mais qui ont peut-être besoin de mieux saisir la parole de Dieu. C'est pour cela que nous, bien que dans notre mouvement, nous ne soyons pas centrés sur le Saint-Esprit, nous sommes centrés sur Christ, mais nous reconnaissons, tout en étant centrés sur Christ, que l'Esprit de Dieu nous a été donné pour exalter Christ comme Seigneur, comme chef et comme souverain. Et nous avons une responsabilité à l'égard du monde, et nous avons aussi une responsabilité à l'égard de tous ses frères, qui les uns ou les autres, pour des positions un peu désordonnées ou une méconnaissance totale à cause d'un enseignement de l'Écriture, ont besoin de faire cette expérience. C'est important que nous, les assemblées de Dieu, nous sachions évaluer notre besoin de réexaminer, de clarifier le riche héritage que ceux qui nous ont précédés, les frères comme Donald G., les frères comme Marcel Roux et d'autres, ces pasteurs qui ont laissé une marque de vérité, de sainteté dans notre mouvement, nous ont communiqué. Non seulement nous voulons vérifier que le mouvement de l'esprit est fondé sur la Bible, mais nous voulons vérifier que les expériences spirituelles de notre époque, quelles qu'elles soient, ne peuvent pas être revêtues de la même autorité que la Bible. Aucune expérience spirituelle, aussi transcendante soit-elle, ne peut être supérieure en autorité à la parole de Dieu. En tant que pentecôtistes, nous recevons le livre des Actes comme un modèle pour notre vie spirituelle. Son contenu est normatif. Ce n'est pas simplement historique. Comme me disent, j'ai fait des colloques à Lyon avec des pasteurs. Et bien sûr, le débat porté, moi je dis c'est normatif. Non, c'est historique. Oui, c'est de l'histoire, mais c'est une histoire qui dure. C'est une histoire qui est la norme. La norme, c'est ça. Et ça, c'était difficile à admettre pour eux. Le contenu du livre des Actes n'est pas simplement un contenu historique, mais il est normatif. Nous mettons l'accent sur le fait que le baptême de l'Esprit a été promis à chaque chrétien. Et il ne doit pas être confondu avec la régénération ou la conversion. C'est un revêtement de puissance en vue ou en rapport avec la mission. C'est une expérience subséquente. Il y a l'expérience du salut et il y a l'expérience qui suit. Subséquente, ça veut dire qui vient après. L'expérience subséquente du baptême dans le Saint-Esprit. Ça, c'est bon pour les formulaires. Hein, tu leur mets ça, tu as tous les formulaires. Donc, nous établissons également et nous recevons le lien qui est établi par la parole de Dieu entre le parler en langue et le baptême dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas de l'extase mystique, ce n'est pas une perte de contrôle, c'est un miracle. Donc nous lisons, oui, nous les chrétiens des assemblées de Dieu, nous lisons la Bible différemment. Il y a une lecture pentecôtiste de la Bible. Et nous nous y reconnaissons pleinement. Ce livre des Actes des apôtres, nous l'aimons parce que cette histoire, mais c'est notre histoire, c'est leur expérience, c'est celle que nous vivons. Hein? C'est l'histoire de ces gens qui ont réussi à persévérer contre tous les pouvoirs, y compris le pouvoir démoniaque, non seulement la politique, non seulement la religion, mais il y avait aussi les puissances mauvaises. Et ces gens-là ont relevé le défi de leur société. Et comme je le disais il y a quelques instants, ils n'avaient pas, comparé à nous, les moyens que nous avons. Ils n'avaient pas les réseaux, ils n'avaient pas la faculté de s'étendre. C'était difficile. Mais ils ont réussi à faire ce que nous n'avons pas encore réussi à faire, à bouleverser le paysage de toute cette partie du monde méditerranéen. Et ils ont implanté l'évangile de Christ. L'histoire rapportée dans le livre des Actes des apôtres, c'est notre histoire. Et j'aimerais qu'au travers de ces quelques jours, vous puissiez vous identifier tellement à eux, que vous puissiez devenir chacun des éléments solides pour que vos pasteurs et vous, ensemble, vous remportiez cette grande bataille du salut des habitants de cette région. L'histoire du livre des Actes des apôtres, c'est la mienne, c'est la nôtre. Elle m'identifie, elle nous identifie, elle nourrit notre imagination. Elle soutient notre foi, notre espérance. Elle nourrit notre dynamisme. Nous ne sommes pas angoissés, nous, les assemblées de Dieu, à expliquer rationnellement les miracles de la Bible, l'origine du baptême dans le Saint-Esprit. Notre théologie accepte tout cela. Alléluia! Parce que c'est la théologie des apôtres et c'est la théologie d'un mouvement authentique du Saint-Esprit. C'est vrai, l'Église a été rasée. Le Gazam, l'Arbé, le Gélec, le Asile. Et puis il y a eu les âges ténébreux, le millénium de Satan. Mais ça n'est pas la norme. La norme, c'est là-haut, au midi, la plénitude de l'Esprit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient environ 120. 120. Tous n'étaient pas fidèles. Jésus avait dit cela à 500 frères. 500 frères. Mais où sont-ils les autres? 380. Oh, ils étaient ailleurs. Et Jésus avait dit, ne bougez pas. Il y a quelque chose de très important qui va survenir. N'entreprenez rien. Attendez d'être remplis du Saint-Esprit ce jour-là. L'Esprit est venu. Et il s'est posé sur chacun d'eux. La différence entre eux et nous, c'est que peut-être nous ne donnons pas la même latitude au Saint-Esprit. Quand la Bible dit « le Saint-Esprit s'est posé sur chacun d'eux », le mot qui est employé dans le texte original, c'est un mot qu'on pourrait davantage traduire par « siéger ». C'est un mot qui était utilisé dans la magistrature, lorsque le magistrat entrait et qu'il prenait ses fonctions sur son siège. Il venait pour présider. Il venait pour dire « oui, non, c'est bien, c'est mal ». Tandis que peut-être nous laissons le Saint-Esprit dans notre vie comme un résident. Oui, il y passe. Il est là, on parle en langue, on sent sa douce présence. Mais est-ce qu'il préside? Est-ce qu'il siège? Quand le Saint-Esprit vient dans une vie, il faut que nous nous rappelions. Et c'est peut-être aussi une des causes du succès de nos frères du début. Les Donald G, les Roux, les Burki et les autres, les Philâtre et d'autres. C'est que l'Esprit vient pour prendre autorité. Il vient pour contrôler. Il vient pour être le maître, le décideur. Souvent, nous le laissons à côté. Nous oublions que le Saint-Esprit est Dieu. Être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est pas simplement parler en langue, c'est avoir une relation spéciale avec Dieu. Et c'est nourrir avec lui une relation, et c'est ce que je vais aborder plus tard, une relation de sainteté. Pourquoi il y a eu des pertes? C'est le titre que j'ai mis à ce document, perte et restauration de la vie de l'Esprit. Il y a eu des pertes parce que, notamment, le niveau de sainteté a été lamentablement abaissé. C'est ce que j'essaierai de traiter avec vous lundi soir. À partir de l'Épître aux Thessaloniciens et des textes de l'Épître aux Éphésiens, conformément à un don spirituel qui a été donné ce matin, je vous montrerai combien la nature de l'Esprit, c'est d'être saint. Combien le diable peut imiter l'enthousiasme pentecôtiste. D'ailleurs, dans les cultes païens, il y avait des enthousiastes. Les enthousiastes, c'était des gens qui étaient possédés. Le mot enthousiasme signifie avoir Dieu en soi. Entheusiasmos. Avoir Dieu en soi. Et ces possédés se livraient à des cultes un peu comme aujourd'hui dans le candomblé brésilien. Ils dansaient, ils tournaient, ils s'agitaient, ils s'excitaient. On parlera aussi de ça. Parce qu'il y a des églises qui pensent que maintenant on peut adorer Dieu avec son corps, etc. Mais ils oublient que Jésus a dit que le Père cherche de véritables adorateurs en esprit et en vérité. Paul disait « Dieu que je sers en mon esprit ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Servir Dieu en son esprit. Eh bien, ça veut dire exercer un contrôle sur la partie inférieure de notre personnalité, qu'est notre âme et qu'est notre corps. Or aujourd'hui nous voyons des dérèglements où toutes sortes d'éléments, je dirais, naturels, qui au demeurant peuvent être sympathiques au départ, prennent une place et créent un désordre et une confusion au sujet de l'action de l'Esprit. Et la sainteté de vie et la pureté personnelle font partie du témoignage d'un chrétien converti et baptisé du Saint-Esprit. Le diable peut tout imiter. Il peut imiter les prophéties. Il peut imiter les guérisons. Il peut imiter le parler en langue. Mais il ne peut pas imiter la sainteté de vie. Ça le répulse. Ça le répulse. Et c'est pour cela que une partie de notre efficacité et de ce rééquilibre dont je parlais tout à l'heure, eh bien, ce sera de revenir aussi à cet aspect de la sainteté de vie. Alors vous me dites, j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit, certes. Paul a posé un jour la question, c'était sa première question. Vous savez, Paul, c'était un homme assez abrupt, il ne faisait pas trop de manières, il ne faisait pas, vous savez, aujourd'hui, un culte, café, j'ai vu l'autre jour, café, croissant, culte, les trois C, C3, c'est à la mode, M2, C3, D4. Alors, culte, il y avait café, croissant, culte, le culte, évidemment, en dernier. Voilà. Mais moi, je ne sais pas, quand vous avez le café dans la bouche, le croissant aussi, comment le culte peut bien se dérouler. Donc, je manque d'expérience dans ce domaine. Et je veux bien apprendre. Mais Paul, c'était un gars abrupt. Il arrive, il voit des 12 frères, des baptistes, rien qu'à la tête, il les a reconnus. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Alors, on n'a même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Je vais vous expliquer. Et il leur explique, ils prient pour eux, ils sont baptisés dans le Saint-Esprit. Avez-vous reçu le baptême dans le Saint-Esprit? Peut-être que vous allez en majorité ce matin me dire, mais oui frère, j'ai reçu le baptême dans l'Esprit. Eh bien, qu'est-ce que vous devez faire maintenant que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ben, toutes les épîtres de Paul nous montrent. La phrase, la réponse tient en une phrase. Maintenant que vous êtes remplis de l'Esprit, vous devez le rester. Vous devez le rester. Et rester rempli du Saint-Esprit, croyez-moi, ça nécessite toute une vie d'effort, de sainteté, de progrès, être vigilant. On ne peut pas voir ça ce matin, je vais vous libérer. Mais vraiment, j'apprécierais que vous puissiez revenir lundi, revenir mardi, mercredi aussi, je crois. Et nous allons essayer de nous entretenir. Je ne sais pas comment le Seigneur va conduire ces choses, mais peut-être même y aura-t-il des ateliers pratiques, alléluia, avec la recherche du baptême dans le Saint-Esprit, amen. Et peut-être même aussi des temps de questions et réponses, je ne sais pas, les pasteurs décideront, puisque c'est eux qui sont responsables. Nous avons, au cours de l'histoire, perdu beaucoup, le Gazam, l'Arbé, le Gélec et le Hazil nous ont pris beaucoup au sujet de la plénitude, mais Dieu, dans sa bonté, a veillé à rétablir. Nous sommes revenus maintenant là, à la 11e heure. Nous attendons le retour du Seigneur. Et plus que jamais, nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur nous accorde sa grâce. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Jésus,